Maudit que je m'endors. Je pense que j'ai besoin d'un café. Téléphone intelligent, dis-moi où est le Tim Horton le plus proche.
Fuck le Tim Horton.
Quoi?
Va donc au Salonger à la place au Salonger. Le café est vraiment bon, tu vas l'apprécier. C'est pas juste un jus de boîte que tu bois en attendant qu'il soit l'heure de tomber dans le jean à cochon.
Situé au niveau métro du pavillon Aquin, le Salonger, c'est la place pour te sustenter.
Bonsoir tout le monde, bienvenue à Pop en Stock, épisode 112. Je m'appelle Hélène Lorrain et ce soir on va parler de Jean Leloup, une figure vraiment atypique et particulière dans le monde musical québécois. Et pour m'accompagner, Marie-Lise Hamelin, une journaliste indépendante.
Salut!
Allô? Et Stéphane Plante, producteur de contenu numérique au journaldemontréal.com. Salut Stéphane!
Salut Hélène!
Donc, qu'est-ce qui est intéressant, on en parlait un peu avant d'arriver en onde, c'est qu'on est comme des semi-fans chacun.
Oui, c'est ça.
Il n'y a aucun ici de gros fans qui connaît tout, donc on va naviguer là-dedans, mais ça fait de nous quand même des figures un peu spéciales, justement, qu'on est, on n'est pas trop comme investi dans le sujet, donc on peut garder un petit œil critique, là. Moi, j'aime beaucoup ça. Une petite intro rapide de Jean Leloup, il est né en 1961, donc il a 55 ans, et je tiens à dire que donc, dans 5 ans, il va avoir 60 ans. Ce qui ne rajeunit personne ici.
Oh,
il a passé une partie de son enfance en Afrique, en Togo et Algérie aussi, d'où la chanson d'ailleurs Alger, qu'on va écouter tout à l'heure, et il s'est révélé au festival de la chanson de Grimbé en 1983, et fait assez peu connu, mais que je savais parce que je l'avais en vinyle. Jean Leloup a été Ziggy,
oui,
dans une Starmania. J'ai pas eu dire Ziggy Stardust.
Et on a un extrait, non?
Non, c'est vraiment étrange comme résultat.
Ah, puis il a renié ça d'ailleurs. Il n'a jamais reconnu que c'était un beau passage de sa carrière.
Il n'a pas hésité à renier bien des affaires d'ailleurs.
Ah oui, tout à fait. Mais Starmania, c'est pas son moment le plus glorieux.
La serveuse automate, c'était Marie-Carmen.
Wow. Ah, c'était cette
Marie-Jeanne,
édition,
c'est ça, Marie-Jeanne, c'est Marie-Carmen.
Ouais, ouais, ouais.
C'est vraiment comme issu, j'ai l'impression, du festival de Grimbé.
Oui.
Cette affaire-là. Et c'est en 88 qu'il sort son premier album avec Menteur, un album que c'est aussi qui a dit que c'était pas super bon.
Exact.
C'est pour ça qu'il a été appelé comme ça, d'ailleurs. Et la consécration, c'est vraiment en 1991 avec L'amour est sans pitié. Et le hit, le gros hit, 1990. Co-écrit ou avec James...
Ben pour la musique, oui, ils ont collaboré.
Oui, c'est ça, oui. De Brand Van 3000, bien entendu.
Oui, qui n'était pas sur la première version de l'album, oui. Par contre. C'est arrivé un peu plus tard, là, ils ont fait une...
Sur le deuxième pressage.
Voilà.
Ouais. La première version était vraiment, vraiment plus disco, d'ailleurs, je trouvais.
J'ai déjà entendu une fois la première version.
Oui, oui.
Mais c'est la version qui était la plus populaire, c'est celle-là avec le clip. C'est la version,
ouais,
plus à la D-Light, un peu.
Oui, c'est ça, oui, oui. Mais la toute première était vraiment plus...
Il y avait une version plus rock, là. Avec,
ah ouais, non, je me trompe.
Donc, il y a peut-être eu trois versions. En tout cas, il y a une première version plus rock avec, ouais, Yves Desrosiers.
Oui, tout à fait.
Tout, ouais, ça. Mais ça, moi, je ne l'ai même pas entendu. Je ne l'ai jamais
entendu.
Bien mélangé.
Et on a un extrait, non?
En fait, j'aimerais ça passer tout de suite en musique avec Alger, parce que justement, ça parle de l'enfance un peu de Jean Leloup, qui commence à se construire un peu comme un personnage aussi, avec mythique un peu. Donc, ça va être une émission qui va avoir beaucoup de musique, étant donné le sujet. Donc, allons-y avec Alger.
Les vieux sont assis en tailleur, les femmes qui vendent des bonbons. gonfle avec la pompe à vélo. Alaya Baba, Alaya Baba, Asma, Alaya Baba, Alaya Baba, Asma, la derboka. La première fille que je l'ai perdue, la première fille que je l'ai aimée, la première fille que je l'ai caressée. En face, il y avait la Casbah, les enfants, les Mac, les Fatma, les Olivets, les Oliviers, la mer Méditerranée, la mer Méditerranée. Hey!
Donc, on s'aperçoit que cet album-là, en fait, c'est paru sur Menteur. C'était vraiment un album qui était produit beaucoup et Jean-Louis n'aimait pas du tout ça. Et il a apporté un certain changement dans son son. Il s'est aussi joint d'autres musiciens qui a surnommé un très bon nom, un très bon titre, La Salle à faire. Et Stéphane, c'est de ça dont tu veux nous parler?
Oui, ben moi, La Salle à faire, j'aimais presque ça autant que Jean Leloup. En fait, j'étais vraiment fan de Brice Bois, le bassiste, mais qui était pas le premier bassiste, mais c'était Patrick Pellin. J'adorais La Salle à faire, j'aimais l'idée. Je suis un gars de gang, je pense que j'aimais ça, cette idée-là, Jean Leloup, La Salle à faire.
Mais c'est quoi l'idée, à part d'avoir un band? Est-ce qu'il y a une idée, est-ce qu'il y avait un concept derrière?
La Salle à faire, non, c'était vraiment le band de Jean Leloup. Okay. Je veux dire, ils ont jamais rien enregistré sans ça, mais j'aimais l'idée parce que je savais que Jean-Leloup aimait le rock'n'roll, puis oui. Pour lui c'était important ce trip-là, puis un peu là, c'est bon, ben c'est ma gang, j'arrive avec mes musiciens, puis moi je tripais autant là.
C'était le meilleur groupe de rock à ce moment-là au Québec, ça. Là il y en avait pas tant que ça. Après il y a eu
les Parfaits Salauds,
il y a eu Possession Simple, il y en avait quelques-uns, mais la Salle à faire,
il y avait une mouvance à la fin des années 80 pour changer le son justement, ouais. Parce qu'il y avait Jean-Leloup, mais il y avait les Taches, un gros fan des Taches, aussi. Il y avait une couple de groupes comme ça montréalais qui voulaient justement tourner la page là, sur les synthétiseurs, les solos de saxophone, puis la
production très très remarquée des années 80.
C'est ça.
Dans les nuages.
Oui, précisément.
C'est ça, il y a beaucoup d'enregistrements qui étaient faits comme ça, avec des systèmes MIDI, des claviers, des synthétiseurs qui prenaient toute la place. Ouais. Puis je pense qu'on découvrait ça, on disait « Ah, ben c'est cool, c'est plus simple. » Et après ça, on est revenu à l'analogue, des enregistrements vraiment plus là, live, avec des sons plus rock. Et Jean-Leloup était dans cette mouvance-là. Moi, ça m'a marqué. Tantôt, on disait que je suis peut-être pas un inconditionnel de toute la carrière, toute la discographie, mais L'amour et sans pitié, à cette époque-là, oui, j'étais un fan fini. Là.
C'est un excellent album.
Ah,
c'était
incroyable.
Tient très bien encore à ce jour.
Ah, c'est.
Puis ça faisait partie aussi à l'époque, tournant des années 80, début des années 90, de ce qu'on appelait la nouvelle chanson.
Ouais.
Donc, il y avait une espèce de renouveau dans la manière de chanter en français au Québec, dans le récit là, de la chanson au Québec, bien entendu, t'as les années 60 là, qui sont absolument glorieuses, dans lesquelles il y avait une espèce de bataille là, entre les chansonniers puis les yéyés, mais que finalement, bon, il y avait des fois des petits jabs qui se donnaient, mais tout le monde s'aimait bien quand même. La bataille des deux Guy. Moi, j'aimais les deux Guy. Guy Latraverse, je pense, puis Guy Cloutier.
Je connaissais pas cette expression-là.
Durant les années 70, il y a eu comme le mouvement indépendantiste là, qui a été porté beaucoup par la musique. Années 80...
Petite drop après le référendum de 80.
Petite drop, oui, que tout le monde chante en anglais.
C'est
justement.
Ça. Puis, mais justement, à la fin des années 80, ils ont repris le flambeau des groupes comme ça avec Jean-Leloup. Oui. Puis, pour revenir sur La Salle à faire, je me suis rappelé, j'étais sur Saint-Denis une fois, j'habitais pas Montréal là, quand j'étais adolescent. Et là, j'avais croisé les gars de La Salle à faire. Je leur avais fait signer j'avais un fanzine sur moi qui s'appelait Mélomane, ça n'existe plus. C'était avant là, les webzines. Là. Il n'y avait pas d'Internet, là, en tout cas, ou juste à NASA peut-être. Là, mais...
ouais,
et là, j'avais Mélomane. Et j'avais fait signer Gilles Brisebois, Alex Cochard, Yves Desrosiers, dans mon magazine, puis là, ils m'avaient demandé est-ce qu'on est là-dedans. Et là, j'étais déçu de leur dire non, parce que c'était plus alternatif, c'est genre Banlieue Rouge, des groupes comme ça qui étaient dans le magazine, dans le fanzine. Et mais je leur avais fait signer, puis Alex Cochard m'avait dit, ben, t'es le premier qui nous reconnaisse sans qu'on soit accompagné de Jean Leloup. Tu sais, quand je disais que j'étais un peu fan, c'était ça.
Mais t'avais quel âge à peu près à cette époque-là?
J'avais 16-17 ans.
OK, ouais, c'est...
Fait que, ouais, ça, je sais,
c'est... Non, non, c'est cool. C'est pas trop jeune, c'est pas trop vieux, c'est comme...
Mais j'étais fan, c'est l'âge où tu vas avoir des shows, t'achètes des t-shirts.
Ben oui, avec raison, puis, c'était bon.
T'as cette volée des set listes, puis tu sais, c'était ça, là.
Volée des set listes, OK.
Ça, j'avoue. Enfin.
Un peu fan, un peu, juste un peu.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est ça, genre, finalement, cette incarnation-là de Jean Leloup après Menteur, puis avec La Salle Affaire, a tellement une importance pour la suite des choses. On a parlé de la consécration de Jean Leloup au dernier gala de la disque, il en a reçu vraiment beaucoup de Félix, mais c'était in the making, là, parce qu'il y a tellement fait pour l'industrie de la musique au Québec.
Oui. J'avais trouvé ça long, moi, entre L'Amour et sans pitié et Le Dôme. Je trouvais ça insupportable.
5 ans, 6 ans.
Et je l'avais vu au Barouf sur Saint-Denis, puis je voulais aller y parler, dire qu'est-ce que tu fais, là, quand est-ce que tu sors quelque chose, mais j'étais pas encore assez sous pour. J'étais trop gêné, j'étais trop fan, intimidé. Et c'est drôle, ça a pris du temps. Puis quand Le Dôme est sorti, j'étais un petit peu plus indifférent. J'avais, je sais pas, j'écoutais plein d'autres affaires, puis. J'ai aimé ça quand même, mais beaucoup plus tard. J'ai pas été un écran.
Parce que ça tellement. Moi, je vois deux consécrations dans la carrière de Leloup, Le Dôme et le dernier à Paradis City, où vraiment. Et c'est drôle, à chaque fois, je le disais, c'est un pattern. Il y a eu 6 ans avant ces albums-là. C'est sûr qu'il était très attendu, mais je pense aussi que c'est des bons albums.
Célébrés
par la critique.
Dans l'état d'esprit que j'étais moins fan à ce moment-là. J'écoutais des choses, c'était plus éclaté, plus diversifié. Mm-hmm. Donc, quand ça a sorti, c'est correct. Je me rappelais de certaines chansons qu'il avait jouées dans la tournée Rock le lait.
Mm-hmm. Avec les vilains pingouins et les d'amour.
France d'amour! Et c'était les trois. C'était tellement bizarre, la foule dans ces spectacles-là, quand on y allait. Je pense que j'avais été à Victoriaville et à Sherbrooke les voir. Et c'était pas genre le loup, vilain pingouin, quelque part. Les gens pouvaient aimer les deux, mais c'était bizarre avec France d'amour. Il y avait comme un clash.
À l'époque, là.
Pour rien, j'enlève rien.
Très nouvelle, parce que c'était même avant Animal. Animal, c'est 84.
Ça débutait.
Animal a été comme son troisième hit. Là. Elle avait déjà comme.
C'était quoi son premier hit d'abord? Je me souviens juste.
Toi qui es toujours là.
Allez, vas-y.
Oui, karaoké. mais c'est vrai que c'était un casting très étrange. Même moi, à l'époque, j'étais, je sais pas, fin du primaire, mais j'aimais Les Vilains Pingouins, j'aimais La Salle Affaire, j'aimais pas vraiment France d'amour, mais je voyais pas le rapport.
C'était étrange.
Déjà, là.
Mais ce qui était aussi étonnant, c'est que Jean Leloup avait toujours refusé de faire de la pub, que ses chansons Et là, ça se rock le lait.
Ouais.
OK, c'était les producteurs, Laetitia, c'est peut-être pas une marque ou quelque chose. Ça m'avait étonné. Mais le show était quand même bon, là. Mais le virage était déjà fait vers Le Dôme. Les chansons étaient beaucoup plus longues, des jams plus longs. Puis, on n'avait pas décroché, mais l'album avait été long à sortir, même après la tournée Rock le lait. Puis même s'il jouait Faire des enfants dans ce show-là, il jouait, je pense qu'il jouait Fashion Victim. Il jouait déjà ces chansons-là dans 2 ou 3 ans avant que Le Dôme sorte. Fait que quand l'album est sorti, j'étais pas, mais je l'ai réécouté après, j'ai fait, c'est vraiment un bon album, là. Puis je l'ai fait passer quand j'étais DJ. Edgar, j'adore cette chanson-là encore, là.
On va la faire jouer, mais pas tout de suite.
Moi,
je suis vraiment pas bonne pour garder les secrets. Donc, écouter, en fait, pour le moment, la chanson de titre, L'Amour et sans pitié, qui est une... quand on pense au gros succès de L'Amour et sans pitié, on pense à 1990, on pense à Isabelle, Cookie, mais on oublie tout le temps L'Amour et sans pitié, qui est excellente, là, qui channel complètement son côté franchouillard, désagréable.
Ce vidéoclip. J'adorais ça.
Oui. Donc, L'Amour et sans pitié.
l'amour est sans pitié. Oh non, rien ne va changer. Il y a tant de bruit et pourtant pas d'amis. Toujours la solitude, ça devient une habitude. Oh non, rien ne va changer. L'amour est sans pitié. Oh non, rien ne va changer. Il n'y a rien à faire. La douleur est amère. Le bonheur est vénère. Toujours recommencer. L'amour est sans pitié. La vie ce n'est pas rose, la vie ce n'est pas rose. La terre est une boule, un ballon rouge et vert. Un jour tu vas shooter. Qu'est-ce que ça va changer? Oh non, rien ne va changer. L'amour est sans pitié. Oh non, rien ne va changer.
Alors, c'était la chanson, la version de le best-of. Donc, c'est pas exactement la version de l'album L'amour est sans pitié. Mais c'est quand même une version. C'est quand même L'amour est sans pitié. C'est quand même la bonne chanson.
Bonne version.
Très bonne version.
Donc, Marie-Lise, tu veux quand même poursuivre sur cette voie-là, donc parler de la salle à faire. Encore une fois, excellent nom de groupe. Vraiment.
Ah oui, vraiment. Je suis vraiment jalouse. Un bon nom pour un bon groupe. Puis là, je me sens mal parce que Jean Leloup, c'est peut-être l'artiste québécois que j'ai le plus écouté dans ma vie. Je l'ai admiré quand j'étais ado. À l'époque du Dôme, je suis allée le voir à cette époque-là, c'était au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai trippé là-dessus. Puis là, je vais faire un peu de shitty talk. Puis je me sens mal.
Non, ben on a dit au début qu'on a été un peu critique. Là,
ben c'est... oui, mais un peu beaucoup, parce que je me base beaucoup sur le travail de recension d'Olivier Boisvert-Magnan, qui est au Voir, mm-hmm. qui a vraiment fouillé la question pour les 20 ans de l'album, je pense, en tout cas. Et il a fait paraître un article sur un petit peu... Sur lequel album? Sur l'album...
Sur le Dôme?
L'amour est sans pitié.
Donc 25 ans. Donc
oui, 25 ans. Voilà. Et il est allé rencontrer un petit peu les acteurs. Michel Dagenais, qui était le premier réalisateur qui s'est fait vraiment lourder.
Tasser.
Après ça, il a jasé avec Yves Desrosiers. Puis je trouvais ce qui en ressortait, c'est un peu l'absence de loyauté de Jean Leloup. Parce que déjà, quand il fait Mentor n'est même pas sorti. Puis il rencontre Dagenais, puis les deux s'entendent pour dire qu'ils n'aiment pas les arrangements. C'est ce que tu disais, Stéphane. Et ils font en cachette des chansons. Ils écrivent Isabelle en demi-journée, une matinée. Ils s'inscrivent, je pense, c'est-tu au coup de cœur francophone, là quelque part. Ils s'inscrivent d'un concours, en tout cas, puis monsieur...
L'Empire des futurs rockstars.
Quelque chose de
L'Empire
même.
Des futurs stars.
Et Michel Bélanger, le frère de Audiogramme, est même pas au courant de ça. Il l'apprend dans la presse. Il est en beau calvaire. Jean-Louis retourne pas les appels. Vraiment n'importe quoi. Et là, il est au désespoir, Bélanger chez Audiogramme, puis il dit, ben laissez-moi le sortir, au moins je vais en imprimer, je sais pas combien de copies, 15 000 exemplaires, puis après ça, je vais vous laisser
pressage.
Louche,
okay,
c'est
ouais.
ça. Puis vous ferez votre album de L'amour est sans pitié, ce qu'ils vont faire, puis ils vont l'écrire, puis ils sont jeunes, là, Leloup il a 27, Dagenais il a 24, puis ils composent l'album au complet en 25 jours. Fait que c'est vraiment le gros hype, le gros amour, puis ils partent en Europe pour ramasser des musiciens français, ce que tu disais, Stéphane. Il y a une première mouture de la salle à faire. Ils reviennent ici. Finalement, Jean Leloup change ses musiciens. Il trouve que Dagenais prend trop de place. Le sac à porte. Et, ah ben, j'ai oublié de faire mon petit aparté sur les négresses vertes. J'en reviens deux pas en arrière. Parce que, justement, quand ils s'en vont en Europe en 89, d'Agdet puis le Loup, ils font la première mouture de la salle à faire avec Roger Maddox, Patrick, est-ce qu'on dit Pellin? En tout cas, Pellin. Et Alexis Cochard, qui est le seul qui va survivre au Survivor de la salle à faire. Et ils sont très influencés par le son français. Puis ça, on l'entendait déjà dans Menteur avec Alger, qu'on a écouté avec Printemps-été, puis on l'entend beaucoup dans Isabelle aussi, et puis dans ben, Nathalie, tout ça. Avant de poursuivre, dans le fond, sur après ça, je vais embarquer avec la période de Yves Desrosiers, mais j'aimerais ça qu'on écoute Zorbi la mouche des Négresses vertes pour constater à quel point Jean Leloup était sous influence à cette époque-là.
Vous me reconnaissez? C'est moi, Zombie. Hello. La mouche.
De retour. Donc, on était en grande discussion rapport à Xavier Cafilm. Ça, on va y revenir. Donc, ouais, on entend vraiment l'influence des négresses vertes. Des négresses vertes.
C'est un virlangue.
Ben, particulièrement dans Alger, mettons qu'on a entendu, mais aussi dans L'amour est sans pitié.
Absolument. Oui, surtout qu'on sait maintenant, les albums sont un peu concomitants. Tout ça s'est passé pas mal en même temps. Et donc, c'est ça, Jean Leloup, influencé par tous ces sons-là, revient de France avec un band, finalement, fout tout le monde à la porte, va chercher Yves Desrosiers.
Est-ce que t'es au courant, est-ce que vous êtes au courant si Yves Desrosiers avait était déjà connu, comment Jean Leloup l'a connu?
Il avait joué dans Les Taches.
Ah oui, c'est vrai!
C'était pas le premier guitariste des Taches, mais à la fin, c'est lui qui joue de la guitare, puis même sur YouTube, on peut le voir à Garden Party, l'émission.
Ah,
il joue de la guitare pour Les Taches. Mais... je pense pas qu'il était établi encore, là. C'était un bon guitariste, là, mais il a accompagné plein de monde. Là.
Exact. Puis par la suite, il va s'illustrer. C'est lui qui a mis la salle de Sella la carte. Puis
il joue avec Biot. Mon oncle Serge joue un peu aussi.
On pourra en parler. Puis il y en a d'autres. Genre, ben, peut-être si on a le temps. Mais c'est ça. Et puis là, finalement, il faut tout le monde à la porte. Je le disais. Puis là, finalement, c'est la salle à faire. Il y a Gilles Brisebois, François Lalonde, Alexis Cochard qui a survécu. Et ce qui est plate, c'est que Dagenais, non seulement il se fait évincer, mais il n'est même pas crédité comme réalisateur. Puis ça, c'est un peu triste parce qu'il a travaillé vraiment fort parce que ma chronique, c'est un peu le manque de loyauté. Mm-hmm. Fait que ça, c'est poche. Et là, il repart sur une chire, Jean Leloup, puis il veut retourner en Europe. Puis il appelle sur un high, justement, Desrosiers pour y compter ça. Puis Desrosiers, il dit, ben non, tu sais, c'est pas un bon timing. On vient de rentrer en guerre, là. C'est la guerre du Golfe à ce moment-là. Puis Jean Leloup, il est même pas au courant. Tu sais, il est un peu comme déconnecté. Il se met à faire des recherches. Puis là, ça vient le chercher, puis ça l'impressionne. Puis c'est là qu'il écrit 1990.
Oui, c'est ça
qui va devenir un méga hit, pas juste ici, mais en France. Oui. Il va même se retrouver chez Michel Drucker avec ça. Puis là, c'est la grosse affaire. Puis il se
Drucker,
prend déjà...
sérieux, là?
Oui, Drucker, Jean Leloup. Chez Drucker avec 1990. Et lui se voit. Mais là, ploup, ça retombe le succès avec l'échec du deuxième single lancé là-bas qui est Isabelle. Ça pogne pas en toutes les trompettes. Ça pogne pas. Donc, il revient ici, la queue entre les jambes pour faire la tournée Rock Lelay. Les Pingouins France d'amour. Mais ici, au moins, le succès est bien lancé. Mais ce que Desrosiers disait dans le fameux article du Voir aux journalistes, ils apprennent à essayer de faire un autre disque avec Jean, mais ça a pris énormément de temps avant que ça mène à quelque chose. Il a changé de musicien 15 fois. Encore une fois, on change un musicien, on change un. Et la salle à faire se sépare officiellement fin début 93, début 94. Et quand finalement le Dôme sort, Desrosiers dit « C'est drôle parce que quand j'ai écouté le Dôme 2 ans plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait 4 ou 5 chansons qui avaient été gardées de nos sessions, comme Edgar et Faire des enfants. » Donc Jean Leloup, pas juste volage, mais un peu voleur. Donc, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être écouter Edgar à ce moment-ci et rendre hommage à la salle à faire et Yves Desrosiers à qui de droit.
Edgar était un vrai saoulon. Il écrivait toute la journée. Il n'écrivait pas de chansons. Mais des contes où l'assassin l'emportait toujours haut la main. La victime était homme de bien. Le soir, Edgar de la folie la plus atroce se sentait pris. Malgré les honneurs et les prix de la dans la vermine, il se vautrait. À boire, à boire pour Maître Edgar. À boire pour le génie. Prenez garde au fou qui sommeille au fond d'un manoir décrépit, jouant de ses mains anguleuses une valse de Chopin affreuse.
en proie au délirium trémence. On emmena le vagabond délirer son génie immense à l'hôpital. Puis il mourut.
Ouais, donc c'était vraiment une bonne chanson.
En effet.
Oui.
Ah, oui.
Donc, elle était tirée des sessions d'enregistrement.
Non, c'est pas trop. Ouais, c'est ça. Selon ce que l'un et l'autre disent. Mais donc, c'était un petit peu pour faire le tour. Bien, évidemment, Jean Leloup, c'est un mythe. Tu vas y venir, Hélène, dans le prochain segment. Mais c'est sûr que on se fait pas tout seul. Puis, en fait, il y a un talent, c'est qu'il a toujours bien su s'entourer. Même voilà. S'il manquait peut-être de loyauté, ça, c'est mon jugement fort subjectif. Mais, bon, Dagenais puis Desrosiers, c'est pas non plus des gens qui ont pas eu des carrières intéressantes par la suite. Ils sont pas en reste. Yves Desrosiers, on le sait, c'est lui qui a beaucoup contribué à faire connaître La Sa de Cella. Mm-hmm. Il a réalisé, je crois, seulement son premier album, par contre.
Seulement
je suis pas certaine. C'est à vérifier. Oui, c'était tellement bon. Et puis, dans les années 2000, il a travaillé avec Rufus Wainwright, avec Richard Desjardins, Sarah McLaughlin, Pierre Lapointe, et je pourrais continuer. Il a vraiment eu une carrière intéressante.
Tellement qu'il a peut-être pas eu le temps de sortir tous ses albums à lui, parce qu'il en a sorti sur Audiogramme. Il a pris le poète Vysotsky, aussi, qui avait adapté les textes en français. Un travail de moine, à le prendre quelqu'un qui connaissait le russe pour traduire des poèmes, et il a fait des chansons. C'est un projet super ambitieux, mais qui a peut-être...
Et de cœur.
Oui. Mais qui a peut-être un peu passé dans le beurre, parce qu'il était avec déjà plein de gros noms, il accompagne plein de monde. Mais c'est un très bon album là, d'Yves Desrosiers. Puis il a fait des compositions plus tard aussi.
Hein. Ça se peut-tu que ce soit encore un phénomène de quelqu'un qui est très, très reconnu dans sa communauté, mais du grand public?
Grand public, je pense qu'Audiogramme lui fait confiance. Il y a j'ai vu des capsules récemment sur le web d'Yves Desrosiers qui parle un peu de son cheminement de musicien. Puis c'est Audiogramme qui semble pousser pour ça, mais on le voit pas dans les shows de télé. Là. On le voit pas à France Baudouin dire c'est quoi les chansons qui l'ont marqué. Là. C'est très peu de ce genre d'exposure pour lui, mais c'est quelqu'un de très important dans la scène.
C'est ça. Il y a un côté injuste là-dedans au niveau du rayonnement puis de la reconnaissance. Et pour Michel Dagenais aussi, il a fait toutes sortes d'affaires. Je n'ai pas tout retenu parce que c'est une longue carrière, mais en 2013, quand Daniel Bélanger a fait son virage un peu rockabilly, il était avec Dagenais. Il a travaillé sur le plus récent album de Serge Fiori, quand même était un gros succès. Et là, de ce temps-là, depuis l'an dernier, il travaille avec une ex-académicienne, Stéphanie Bédard. Donc
qui était un peu plus country.
C'est ce que j'avais à dire sur
Michel Dagenais.
Parce qu'il travaille aussi sur le projet Sally Folk.
Ah oui, il a travaillé avec Sally Folk aussi, j'ai oublié de le dire.
Pour l'anecdote, quand l'article dans Le Voir est paru, je l'ai croisé à l'Escogriffe. Bon, OK, oui, je vais beaucoup dans les bars, mais je l'ai vu à l'Escogriffe et j'ai parlé. Il disait que quand il a parlé aux journalistes, il a dit « Je t'avertis, là, je vais te dire des choses qui n'ont jamais été dites. »
Ben oui.
Et puis, il s'est vidé, là, vraiment. Il a tout dit ce qu'il avait à dire. Puis, il y avait encore de l'amertume. Là. Quand je lui parlais, là, il était encore amer de cette période-là.
Ah, mais ça transparaît. Ben, c'est normal. Il a écrit les 25 chansons. Il n'est même pas crédité comme réalisateur, rien. Il a les droits, mais il n'y a pas la reconnaissance. Ben, dans l'article, c'est ça, il s'est vidé le cœur, puis Desrosiers aussi, parce qu'il y a une liberté de parole. Il dit, Jean, il a comme sacré tout le monde dehors, puis c'est comme, allez lire ça, c'est un bon papier.
Donc, disponible sur voir.ca, j'imagine, fait une petite recherche. Mais Voir fait de plus en plus de... retrace comme ça l'origine de plusieurs albums forts. Une couple de mois, d'années peut-être qui font ça, les 20 ans, les 25 ans d'albums importants au Québec. C'est très intéressant. Des articles de fond plus. Un petit tour de table avant d'aller dans une autre chronique. C'est quoi votre hit préféré? Pas les deep cuts, là. Un hit préféré de Jean Leloup.
Ben moi j'ai pensé à Cookie, qui est pas ma chanson préférée, mais dans les succès commerciaux là, ce que je vois à la radio, parce que 1990 je l'ai tellement aimé, mais je l'ai tellement entendu.
Là, ça serait Le monde est à pleurer.
Oui, hein?
Même le clip.
Moi aussi, j'ai dirais celle-là.
J'adorais cette chanson, Le monde est à pleurer. L'histoire, la construction, les couplets. C'est
un bon
une bonne
petit
chanson.
Funk. Petit beat funk. Puis, ben, c'est pas un hit, mais le Dôme, qui est un. Pour moi, c'est un hit that never was, là, comme
okay,
on dit.
Oui, oui.
Le truc d'initié, mais que tout le monde connaît, finalement.
Oui, ouais, puis ça marche avec toutes les générations. Ouais, très bon. Sondage dans une école secondaire aujourd'hui, là, ça marche encore, le Dôme.
Jean-Michel Bertrand, qui était là juste avant qu'on entre en onde, a dit que son fils de 3 ans, c'est un de ses artistes préférés en ce moment, Jean-Leloup.
un intemporel, oui, ben, un éternel.
Mon fils a 7 ans, puis il connaît les paroles de Paradise City, peut-être pas par cœur encore, mais presque.
Ça va bien.
il adore les dernières chansons. Là. Puis il y a même qui me parlait une fois de la chanson Plein Gaz, qui est une chanson qui n'a pas sorti.
Oui, qui est sur le best-of. Oui,
c'est le best-of, mais tu sais, qui n'a pas sorti à l'époque. Mon fils connaissait Plein Gaz. Fait, bon. OK.
L'expérience de l'école.
Oui, ouais, c'est ça. Où va-t-il? Ça l'aurait vu.
Moi, je voudrais parler de l'anomalie que constitue Jean Leloup dans le contexte québécois. Parce que Jean Leloup est un artiste qui carbure énormément à cette espèce de mythe de l'artiste, cette fiction de l'artiste qui est présente depuis une bonne grosse centaine d'années. Mais dans le Québec, c'est vraiment bizarre parce qu'on est tous très gentils, très très beige, très le végétarien est vraiment très très rangé. Donc c'est un peu de ça dont je parlais. Mais donc tout d'abord, il faut retracer la figure de l'artiste telle qu'on la connaît aujourd'hui. Au courant du Moyen-Âge, Renaissance et jusqu'au 19e siècle, un artiste était quelqu'un qui faisait des peintures, qui faisait des sculptures. C'était pas quelqu'un qui était le drogué là, qu'on connaît aujourd'hui. c'est vraiment la deuxième moitié du 19e siècle que ça a changé avec des figures comme Flaubert puis Baudelaire qui ont vraiment décidé de se créer un monde à soi, si on peut dire, de se porter en faux, on peut dire ça,
oui.
Se porter en faux, par rapport à cette fameuse bourgeoisie. Et c'est Pierre Bourdieu qui a vraiment beaucoup parlé de cette constitution de la figure de l'artiste dans son livre, je m'en souviens plus, mais c'est Les biens de l'art, si je me souviens bien. Production culturelle, et son élève qui est devenue depuis ce temps-là une prof émérite elle aussi, Nathalie Hennick aussi en a beaucoup parlé, donc ça vous intéresse un peu de sociologie de l'art, Pierre Bourdieu et Nathalie Hennick. Et là, bon, Pierre Bourdieu parle de ça, de la formation de la figure de l'artiste, et finalement, que les artistes à l'époque se sont... il y avait les moyens de... C'était des discours autogénérés, c'est eux qui avaient le stylet dans les mains, donc ils pouvaient carrément... dire qu'est-ce qu'ils voulaient que l'artiste soit à travers leurs écrits, contrairement à d'autres classes de métiers qui n'ont pas vraiment accès aux porte-voix. Les écrivains en particulier peuvent écrire carrément là-dessus, donc ils ont beaucoup écrit là-dessus. Et ils ont mis ensemble l'anti-bourgeoisie et le style de vie bohème pour en faire le style de vie artiste, finalement. Et là, je vais citer Bourdieu, attention, c'est ma deuxième émission de suite où je cite des sociologues. Le style de vie bohème, qui a sans doute apporté une contribution importante à l'invention du style de vie artiste, avec la fantaisie, le calembour, la blague, les chansons, la boisson et l'amour. Tu sais, ça fait
un beau programme.
Ben oui.
Sex, drugs, rock and roll, chansons, la boisson, l'amour. Donc, tout ça, sous toutes ces formes, c'est élaboré aussi bien contre l'existence rangée des peintres et des sculpteurs officiels que contre les routines de vie bourgeoise. Donc, pour Bourdieu et dans cette construction de la figure de l'artiste, être artiste devient un mode de vie qui est séparé de toutes les autres catégories sociales. Donc, tu deviens ça. C'est pas seulement un métier pour gagner des sous et pour plaire aux bourgeois. C'est un mode de vie total. C'est plus un métier qui vise à produire du beau pour plaire aux classes dirigeantes ou avoir leur aval. C'est, on est un artiste 24
heures sur 24. C'est
un statut en soi, là. C'est ça, un statut en soi. Pour eux, être contre les bourgeois, c'est nécessairement être contre le faux, parce que des bourgeois sont faux. Donc, ça, c'est un discours qui, je trouve, qui porte encore aujourd'hui. On dit, Bourdieu parlait de que les bourgeois à l'époque étaient considérés par les écrivains, bien entendu, par les écrivains qui ont créé ça, comme des parvenus sans culture, tout entiers placés sous le signe du faux et du frelaté. Et donc, c'est vraiment important de considérer les bourgeois, la classe dirigeante finalement, comme des parvenus qui connaissent absolument rien. Question de se créer comme les artistes finalement, c'est des personnes qui sont supérieures, malgré leur style de vie un peu débauché, mais sont supérieures.
Il y a une quête d'authenticité, qui persiste là, dans le temps, et puis oui. Se crée en réaction finalement au manque d'authenticité.
Oui, c'est ça, auquel on associe les dirigeants. Mm-hmm. Puis ça, il y a encore plein, il y a toute une suite finalement de caractéristiques qu'on retrouve encore, et j'ai pas juste l'impression, là. Jean Leloup s'inspire vraiment beaucoup.
C'est l'incarnation de parfaite ça. De tout ce que ouais, tu viens de ça. Dire.
Donc, une indépendance d'esprit, donc ce qui va avec une certaine rébellion, l'authenticité, la quête de vérité, et aussi la vérité comme l'artiste, comme révélateur de la société, là. C'est comme le miroir de la société, là. C'est complètement faux, mais ça va être c'est une autre discussion, mais, mais ce mythe-là persiste, cette construction-là vraiment est extrêmement importante. L'originalité qui est toujours très importante chez dans la construction de l'artiste, les plaisirs hédonistes, les présences de drogue, une certaine indépendance financière acquise Dieu sait comment.
Ouais, ça reste
les... ça, là. Ben les ça, c'est ça. On pourra en parler là, du rapport de Jean Leloup à l'argent.
Oui.
Parce que des fois, il va dire qu'il n'y en a pas, qu'il gère n'importe comment. Puis après, oups, il apparaît quasiment comme une figure de businessman. Puis tu dis, quel est le vrai Jean Leloup? Ben, probablement un peu des deux, parce que c'est une construction, un personnage
oui.
aussi, son affaire, là, son côté très... Est-ce qu'il est aussi flyé que ça à tout temps? Est-ce qu'il est complètement... Tu sais, des fois, il était comme un loose cannon.
Oui, oui, oui.
Mais souvent, en entrevue, il a dit, moi, je veux pas me payer des REER, puis je veux pas m'acheter une maison.
Ouais, il dit ça.
Si j'ai un peu d'argent, je vais partir.
Je... 60 ans dans 5 ans. Ça...
wow.
Oui, mais c'est vrai, au Québec, est-ce on a le système des subventions qui, donc, empêche les artistes d'être tributaires d'une personne qui les paye, donc d'un patron à quelque part, mais... ça se fait au prix de devoir remplir plein de formulaires, de devoir mettre sa carrière dans les mains d'un gérant, d'une gérante, et qui peut profiter de nous. Non, donc c'est même si on est indépendant entre guillemets, vous le voyez pas à la radio, mais indépendance financière, c'est ça, acquise Dieu sait comment. Souvent, ça va donc indépendance financière peut-être des fois très précaire, donc pauvreté, rock'n'roll et pauvreté.
Bonne chanson.
Oui, très bonne. Il y a aussi des questions dans la figure de l'artiste, des questions de damnation, de malheur, d'être un peu maudit, d'avoir des problèmes de santé mentale aussi qui viennent. Jean Leloup, durant les 5 ans, moi j'ai déjà entendu, j'avoue que c'est plus de l'ordre de rumeurs, mais je pense que c'est quand même semi-confirmé que souvent, ben, la pause à tout le moins entre L'amour et sans pitié puis Le Dorme, parce qu'il y avait vraiment des problèmes de consommation.
De consommation. On a entendu la même chose. Ouais,
oui, oui. Ouais. Et finalement, et ça peut-être arrivé plus au 20e siècle, mais la figure de l'artiste comme une espèce de fiction incarnée, un mythe avec lequel on joue constamment, on performe la performance à tout le temps, donc on joue, les artistes jouent le jeu de l'artiste, et ça, ça peut être jusqu'à un chemin quand même assez extrême, mettre en scène sa propre mort d'artiste, ce que Jean Leloup a fait avec Exit et le Jean Leloup Big Band en 2003.
Avez-vous compris? Moi j'ai perdu le fil dans les années 2000 avec Jean Leloup. Peut-être qu'on va y revenir plus tard, là, mais j'ai comme décroché à ce moment-là parce qu'il m'a énervé. le spectacle sur les plaines, tu t'en vas là? OK, parfait.
Ouais. Donc là, j'ai bien parlé de la figure de l'artiste et je pense qu'on est tout à fait d'accord que Jean Leloup incarne énormément, c'est vraiment channelé cette figure de l'artiste construite dès la fin du 19e siècle, donc le plus de 100 ans. Mais au Québec, il y a ce vedettariat très familial. Il y a Véronique Cloutier. Je sais pas comment, mais qu'est-ce qui est représenté par... Ben oui, on les aime. Mais c'est ça, on les aime, puis tout le monde est gentil, puis tout le monde est c'est ça, il n'y a pas de mauvais mots qui se disent. Mais Jean Leloup, il pogne pareil. Genre, quelle anomalie.
Oui, c'est fou. Malgré toute la consensualité là, du star system québécois, Jean Leloup, il réussit toujours à passer dans les grosses émissions de télé.
Oui. Puis il est populaire autant dans les régions qu'à Montréal, parce que des fois, il y a des différences de goût, on va appeler ça comme ça, entre les régions. Puis là, il y a vraiment un consensus.
Ben, il y a deux choses. Il y a le son, il y a la musique, puis il y a le personnage.
Ouais.
La musique, je peux pas savoir pourquoi il l'a comme ça, mais c'est vrai que ça plaît aux 7 à 77 ans, là, c'est étonnant. Le personnage, faut quand même voir qu'il s'est jamais prononcé politiquement, ne serait-ce c'est que vrai. La question nationale, l'environnement. C'est pas quelqu'un qui se mouille, donc il va pas antagoniser une partie de son public. Et le fait que justement, il est une drôle de pibite imprévisible, je pense que c'est cette vulnérabilité-là qui va le rendre attachant aux yeux du public.
Moi, ce à quoi j'ai pensé, c'est que malgré tout, le Québec n'est pas hors tout, puis le Québec est quand même en contact avec d'autres figures d'artistes bien connues, comme à une certaine époque, Jacques Brel, je veux dire. Le loup ressemble à Jacques Brel.
C'est vrai, hein? De plus en plus, en fait.
Et d'autres rockstars vraiment, tu sais, Keith Richards et tout ça, là. Donc, on a déjà une base de compréhension de, ah, mais tu sais, Jean Leloup, il est comme ça, puis c'est correct, tu sais, il va insulter son public.
C'est un artiste. Par définition, il est imprévisible,
Impulsif, il fonctionne beaucoup par impulsion. T'en as parlé, justement, ta chronique était là-dessus.
Ben, ce qui fait dire que c'est peut-être pas seulement un construit ni un personnage, il y a une part qui semble être vraie là-dedans.
C'est
là,
ça, ouais. Son channeling est sincère.
Et ne serait-ce que s'il y avait un plan de carrière, je pense pas qu'il prendrait 6 ans pour chaque album, mais bon, avant Paradis City, là, c'était Mes excuses, Milady en 2009. Ouais. C'est exactement 6 ans, encore une fois.
Mais il y a le tour de jouer avec les médias quand même, parce que même si c'est anti-corporate, anti-tout, il comprend le système très bien.
Ben c'est ça, il est loin d'être nono, hein?
Non, pas du tout, il s'en sert très bien, puis il sait très bien que s'il faisait une entrevue normale pour parler de la maladie de sa mère, les gens diraient, ben voyons, c'est qui ça?
C'est pas
Jean Leloup.
Ouais.
Non, il sait très bien comment parler de n'importe quoi. Là-dessus, j'ai perdu ma naïveté peut-être un peu que j'avais dans les années 90 sur Jean Leloup quand il apparaissait quelque part. Je disais, ah, il est tellement freak,
flyé. Mot des années 90.
Oui, c'est ça, exactement.
Oh, c'est cool, carrément buzzant.
Mais là, je le trouve encore intéressant, mais je suis peut-être pas... Je suis plus perplexe, je suis moins dupe un peu quand je vois ces envolées. Ouais. Tout ça. Il y a quelque chose qui, pour moi, est encore un peu calculé, même si, oui, ça peut être sincère.
Mais c'est très intéressant ce que tu dis, comme de quoi... C'est vrai que s'il était... Je me souviens d'une entrevue à Musique Plus avec Marie Plourde, où Marie Plourde avait juste mentionné comme... Alors, vous n'avez pas la TV en odorama, comme signifiant donc que Jean Leloup puait.
J'avais oublié cette histoire-là.
Puis Marc Labrèche l'avait repris aussi.
Oui, c'est comme ça, c'est assez connu. Puis,
mais le malaise, puis c'est en direct. Ah oui. Live, ça. Oh mon Dieu.
Mais je sais pas là, si Jean Leloup puait, mais c'est sûr qu'il.
Ben, ça s'est répandu, cette rumeur-là. Après ça, moi, j'étais à l'école primaire dans ce temps-là. Jean Leloup, il pue, il se lave pas.
Mais ça fait partie du mythe de l'artiste. Mais c'est ça. Il y a une question de distinction, il y a une question de je peux pas faire une entrevue normale, sinon je me distingue
il
pas.
Il va s'aliéner dans sa base.
Oui, c'est ça.
Peut-être qu'il va le faire seulement pour justement surprendre.
Ben oui,
mais il va choisir le moment. Mais il est assez, moi, je trouve assez wise quand même. Même, je dirais, business-wise.
Ben, moi, je partage son impression. Puis c'est à se demander qu'est-ce qu'il pourrait bien faire pour s'aliéner l'auditoire. Parce qu'il est de plus en plus populaire, puis il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Insulter son public sur les plaines au festival de Québec, habillé en indien, pas faire le show. Je me souviens plus parce qu'à cette époque-là, je le suivais moins. Là.
Exit, qui était enregistré à Saint-Jean-sur-Richelieu, si je me trompe pas. Je travaillais chez Archambault à l'époque. On l'entend dire au public comme « Hey, arrêtez là, de faire du bruit, tu sais, c'est l'enregistrement. » Tu sais, comme il est vindicatif, là. Il est,
Ah, puis, mais il est sensible. « Mille excuses, mais ladies », en fait, c'est la réponse à une critique négative qu'il avait eue à son retour. Puis il avait fait une première version, je pense qu'il durait 22 minutes à Radio-Canada, qui était tout en narration. Là, puis là, il disait « Je m'excuse, ma tante. » Puis il déversait son fiel sur cette critique-là, dont j'ai oublié le nom de la journaliste. Puis c'est devenu la chanson « Mille excuses, mille ladies ». Mais cette chanson était interminable. À Radio-Can, il l'avait faite en direct, puis il chantait, puis il était tellement fâché de la mauvaise critique qu'il avait eue. qu'au lieu de répondre, il avait fait cette chanson-là qui est devenue...
Mais ça allait vraiment pas bien dans ce temps-là.
Il avait pas averti les animateurs que ça allait durer
22 minutes. Je dis 22 minutes, mais c'était très, très okay, long. C'est
quelqu'un qui, à ce moment-là, avait déjà toute cette stature-là. Ouais. C'est très étrange d'être aussi fragile.
Mais le spectacle avait été volontaire, je pense, chaotique, dans le sens que, oui, il interpellait la foule, il arrêtait les chansons, puis il trouvait que la foule bougeait pas comme...
Ah, ça avait été épouvantable. C'est en tout cas, selon les journalistes qui avaient rapporté l'affaire, ouais. C'était très négatif. Il s'était pris une méchante volée de bois vert à ce moment-là. Ça, c'est certain.
Je pense qu'on va retourner en chanson pour la dernière fois, puis on va pas l'écouter au complet parce qu'elle est assez longue. Je pense que c'est le hit le plus étrange, le plus free de Jean Leloup. La vie est laide. C'était sur Les Fourmis, qui était un album enregistré live. On entend même les échos live. Puis ça a été un gros hit, là. Le monde la chantait sur la rue, je m'en rappelle.
Au Café Campus, les dimanches francophones, ça se garochait sa piste de danse pour les...
C'est comme, c'est ça, puis toutes les fourmis est quand même assez expérimentale, puis le monde sont embarqués là-dedans. Mm. Le monde est embarqué là-dedans vraiment sans retenue, puis lui était sans excuse par rapport à ça, puis c'était comme... Des fois, on se dit, c'est ça, qu'au Québec, on est tranquille, puis que c'est plate, là, mais... Non, tu sais, une fois de temps en temps, à tout le moins,
on a besoin d'un genre.
Il y a des affaires comme ça qui sortent puis qui pognent partout, puis c'est consensuel. Donc, la vie est laide. Pas je me trompe.
La vie est belle. Ouais, c'est ça. Un fade out parce qu'on le temps file et on doit laisser le studio à une autre équipe. Donc juste un petit blabla de fin d'émission. Notez que ce dimanche, il va y avoir un karaoké Jean Leloup au Métropolis. Donc si vous avez le guts d'aller sur scène au Métropolis pour chanter comme un chaudron, comme s'il n'y avait pas de lendemain.
Ouais, c'est ça. Donc c'est un spécial Jean Leloup, c'est animé par Stéphane Archambault. Mais moi je pense que j'aurais pas le guts. Moi je fais beaucoup de karaoké, j'aurais pas le guts d'aller sur la scène du Métropolis.
Pas, j'ai le goût, t'as quoi.
À noter aussi, il y a une fan page très intéressante sur Facebook qui s'appelle Ministry Dead Wolf, si vous vous intéressez à l'histoire de Jean Leloup. Donc, c'est toutes des archives de Jean Leloup où on peut le voir notamment à Allô Boubou. Ça doit être très, très drôle.
Et très malaisant.
Hey boy! L'émission Beau et chaud, on était à l'époque, Ben Ezra, qui était le talk show de Sonia Ben Ezra. On peut voir, je pense, des images aussi de la tournée Rock le lait.
Plein de photos, c'est vraiment le fun.
Oui, donc une photo, pas une fan page d'archives sur Jean Leloup. Et je termine en disant si l'émission vous plaît, Pop en Stock, abonnez-vous au podcast sur iTunes et ou sur votre logiciel d'écoute de podcast,
votre choix.
Voilà, de votre choix, absolument. Nous autres, on revient la semaine prochaine et je crois que c'est un autre sujet musical, si je ne me trompe pas, ça va être Tragically Hip. J'espère pas me tromper. Donc, passez une bonne semaine. Au revoir. Yay!